Salut les Smart et salut les Marx, vous écoutez Catch Up, le seul podcast dont vous avez besoin pour tout savoir sur le cash, puisqu'on regarde chaque semaine et puis on vous résume et on vous analyse les shows de la WWE. Je suis l'amiral Armbar, aujourd'hui on va parler du Raw juste après Survivor Series, et pour m'accompagner dans cette review, celui qui était à Chicago pour TakeOver et Survivor Series, IRM, comment ça va? Est-ce que tu as enfin remis ton jet lag?
Ouais, doucement. J'avais oublié à quel point c'est difficile dans ce sens-là. Le retour, franchement, dans mes souvenirs, c'était l'inverse plutôt, mais en fait, pas du tout. Hein. Le plus dur, vraiment, c'est difficile. J'ai fait une grosse sieste hier après-midi pour tout vous dire.
Ouais, ça dépend. Moi, quand je fais pas mal d'aller-retour entre la Californie et la France, dans le sens US vers la France, j'ai trouvé technique. Se pousser à ne pas dormir, et t'endormir genre à 2h, 3h du matin le jour où tu reviens, tu fais une grosse nuit, tu te réveilles à 9h, 10h le lendemain, et hop, t'es recalé.
Ah mais ça, Amiral, ça ne fonctionne quand tu n'as pas d'enfant.
Exactement, fallait réfléchir avant.
Quel con.
C'est ça.
C'est soit être amateur de catch, soit avoir des gosses, faut choisir.
Exactement, les deux ensemble, c'est un peu chaud quand même. C'est un peu chaud comme le public de Chicago, parce qu'on est encore à Chicago ce soir, toujours la Osset Arena. Alors pour résumer, les gars de Chicago, ils ont eu vendredi SmackDown, samedi TakeOver, dimanche Survivor Series, et lundi Monday Night Raw, mardi petite pause, mercredi ils avaient Dynamite All Elite Wrestling, pas la Osset Arena, mais à Chicago quand même. Grosse semaine pour les fans de cash de Chicago. Voilà, donc là on reprend, ça y est, c'est terminé niveau la WWE. Les Survivor Series, c'est fini. Les rosters vont rester maintenant bien chez les uns et chez les autres. Et on va plus normalement avoir de gens qui s'invitent. Plus de wildcard rouge, plus d'invasion, etc. On reste à Raw qu'avec les gens du show rouge. Et ça commence avec quasiment tout le monde hein, qui est autour du ring. Avec le capitaine de l'équipe masculine de la veille, Seth Rollins, qui est en costume de vigile assez sombre. La mine sombre, puisqu'il le rappelle, Raw s'est fait un peu botter derrière la veille, puisqu'on rappelle les scores. C'est NXT qui a tout raflé avec 4 victoires, 2 pour SmackDown et une seule pour Raw.
Aïe.
Et ouais, donc il fait une réunion un peu d'équipe de crise, hein, carrément. Forcément, les chants commencent, CM Punk. Les gens de Chicago disent CM Punk. Et là, Rollins, qui n'évite pas, ne fait pas comme s'il n'entendait pas, il dit il doit certainement être derrière un bureau à Los Angeles. Moi, j'essaie de le faire venir ici, mais lui, il fait sa fiotte. Donc voilà, c'est assez intéressant qu'il adresse l'histoire. Sachant en plus que Vince, derrière, a priori, d'après les reports, notamment de Dave Meltzer, était furieux, complètement furieux que Rollins ait fait ça. Puisque un des préceptes, des grands préceptes de Vince McMahon, c'est de ne jamais parler, de même caresser, teaser l'éventualité d'un match, aussi improbable soit-il, si on ne peut pas, à un moment donné, le faire. Donc pour lui, le fait que Rollins se fasse à la télé, à Raw et pas seulement sur Twitter, un peu le buzz avec sa rivalité de tweet avec CM Punk et potentiellement disant je veux un match contre lui, du coup ça l'a mis hors de lui. Après, est-ce que Meltzer a vraiment pensé pas, mais voilà.
C'est pas la première fois que ça arrive, c'est très rare, mais c'est pas la première fois que ça arrive. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de petite rivalité entre les deux sur Twitter là, à l'heure actuelle. Donc, de toute façon, peu importe, même ce qui fait enrager McMahon, on peut vite le calmer avec l'éventualité d'une pluie de dollars qui tomberait sur sa tête. Donc, ça devrait aller pour lui.
Ouais, pour lui, ça peut aller, mais pour Rollins, c'est moins sûr. Parce qu'il n'a pas la cote en ce moment, les fans le bouent, il est plus cool du tout. Et là, il se met tout simplement à engueuler le roster intégralement en disant que lui, il aime Raw, que là, il fait cette réunion de crise parce qu'il veut que Raw redevienne le écho. Ils étaient le échaud avant, maintenant c'est le si chaud. Vraiment, c'est les derniers, les gros nuls. Le public est d'accord avec lui en disant « you suck » maintenant, de façon très prononcée. Et il demande aux gens est-ce que vous avez des explications, pourquoi vous avez tous foiré finalement votre Survivor Series, parce que c'est votre faute si on a perdu. Par exemple, je ne sais pas toi, Orton, t'as un truc à dire, parce que t'étais dans mon équipe, mais t'étais un peu le maillon faible. Anthony regarde ça, il hésite, est-ce que je monte pour lui mettre un RKO ou pas? Non, allez, I'm too old for that shit, je me casse, Orton se barre et rentre dans les backstage et dans les vestiaires. Là, Rollins continue, se démonte pas, fait à peu près la même chose à Charlotte en disant, toi t'étais la capitaine de l'équipe féminine, vous n'avez pas gagné, tu n'étais même pas la dernière membre de ton équipe en lice, qu'est-ce que t'as branlé, en plus tu oses t'appeler Flair, dire que t'es une fleur, Charlotte, Royaume Impérial, décide elle aussi d'aller voir dans les backstage s'il y a des gens un peu plus sympas que Rollins.
Je la vois bien arriver dans les backstage, croiser Orton, dire mais quel con celui-là en parlant de Rollins.
Ah, le début de mix tag team, d'une romance, pourquoi pas. Mais ouais, effectivement, donc du coup, il s'en prend en gros, il se tourne maintenant vers Akam et Rezar, hein, donc les deux mastodontes des Hotor Fane, de AOP, qui disaient, bah vous étiez même pas là, hein, vous parlez depuis des semaines dans une caméra, dans une pauvre salle, et vous n'êtes même pas foutu de venir montrer ce que vous savez faire sur votre série, dégagez, on n'a pas besoin de vous ici. Les deux se cassent. Rollins n'en a pas encore fini, il en fait encore plus de hits. Hein. Il se tourne maintenant vers Rey Mysterio en disant mais Rey, t'étais la plus grosse déception de la soirée, quoi. T'avais un match contre Brock Lesnar et t'as pas gagné. Moi, j'ai battu deux fois cette année. Et même avec ton stupide fils, t'as pas réussi à gagner, quoi. Tout le monde, là, le public, c'est plus You Suck, mais c'est Asshole, l'introduit qui disait Rollins. Et en fait, là, le roster d'Euro en a marre, en a ras-le-bol, d'un commun accord, tout le monde suivrait pour rentrer dans les backstage. Rollins reste seul sur le ring, seul pas tout à fait, puisqu'il y en a un qui monte sur le ring et lui fait face, c'est Kevin Owens. Rollins tourne son attention vers lui en l'appelant Mr. NXT, hein, maintenant t'es dans l'équipe NXT, c'est ça. Voilà, moi je fais ça parce que j'aime Raw, c'est le show que j'aime depuis toujours, je me bats pour le roster. Toi tu fais quoi? Tu fais rien. Il commence à le vanner de différentes manières, et là au moment donné où Owens va pour parler, eh bien un coup de pied dans l'abdomen suivi d'un gros stunner, voici tout ce que Owens aura à dire sur le sujet, et c'est effectivement, de mon avis, ce qu'il faut faire, hein. Owens, il faut le faire stoner un maximum de gens, et là, je ne sais pas toi, mais moi, j'étais bien content que Rollins ait enfin sa bouche fermée, parce que ça faisait une bonne promo heel, où il se met tout le roster à dos, en plus maintenant du public, hein. Donc est-ce que c'est effectivement le heel turn consommé pour Rollins, segment d'intro?
Bah, il faut bien en tout cas, il va falloir le consommer ce heel turn, parce que ça fait un paquet de semaines que tout est aligné pour faire tourner Seth Rollins. Et alors, j'ai trouvé, c'était un petit peu long, mais c'était plutôt original et intelligent d'avoir construit cette séquence-là, en fait, qui rappelle d'ailleurs un petit peu, toi qui aimes les infos backstage, il y a eu visiblement on a demandé à Seth Rollins de s'adresser aux autres catcheurs lors de l'événement, de l'incident avec l'avion, il me semble.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Il y a eu une réunion de crise dans les vestiaires et ça y ressemblait beaucoup. Donc,
moi, ce qu'on appelle en anglais un speech, donc un speech, un discours pour un peu galvaniser les foules. Et a priori, d'après certaines rumeurs des dirt sheets, après le gros fiasco du retour suite à CrunchL, au Raw suivant, effectivement, il y avait une réunion de crise des vestiaires et Rollins aurait fait un discours pour remotiver les troupes, mais Rollins a démenti sur
ce
show. Donc bon. On ne saura pas, mais c'est un clin d'œil en tous les cas.
Ouais, c'est un clin d'œil. Et puis là, cette fois-ci, il l'a fait. Il ne peut pas dire qu'il ne l'a pas fait.
Non, mais c'est kayfabe.
Mais c'est kayfabe. Mais bon, il y a toujours une part de vérité dans tout ça. Tu sais, hein, c'est là où ça fonctionne le mieux.
Exactement.
Donc, j'ai beaucoup aimé. Il y a vraiment des moments où il a fait mouche, hein, quand il s'en est pris à Rey Mysterio. Je pense que là, c'était vraiment le summum, quoi, où il insulte son fils.
Ouais.
Tu vois que les chants est passé de You Suck à Soul, comme tu l'as dit, et c'est mieux. Enfin, quelque part, c'est mieux pour un mec qui va être heel de se faire traiter de Soul plutôt que de You Suck.
Ouais.
C'est que tu fais du meilleur boulot, on va dire.
Donc, oui, et puis en plus, tout le monde est dans un Mysterio, quoi. C'est-à-dire que quand il s'en prend Orton ou Charlotte, ou même les Hotor of Pain, on peut dire, bon, bah, ok, pourquoi pas, quoi, mais Rey Mysterio.
Là, ouais. Non. Ouais, c'est le. Enfin, tu touches pas, quoi. Tu touches pas à Ré-Ré.
Non.
Donc, je l'ai trouvé. Ouais, au début, tu sentais que c'était un peu difficile pour lui, mais au fur et à mesure, il est de plus en plus à l'aise. Et c'est vrai que quand il te dit, ouais, j'ai battu deux fois Brock Lesnar et ça vous a pas suffi, quelque part, il y a quand même un sentiment de. Enfin, de mon côté, un peu de frustration, un petit peu. Tu te dis, ils ont quand même misé énormément sur ce type-là, en lui faisant battre deux fois Brock Lesnar, dont une fois vraiment très clean, quoi. La deuxième fois, vraiment, c'était la stratégie, le mec, il avait un vrai plan, c'était pas juste de casser les couilles de Brock Lesnar. C'était, je trouve, c'était beau, et c'est vrai que te dire qu'un mois plus tard, on envoie... Enfin, il y a une sorte d'aveu d'échec qui est... enfin, on avoue que ça a pas marché, peu importe la raison, et elles sont très nombreuses. Ça n'a pas fonctionné, donc ok, on va faire de Seth Rollins un heel qui est effectivement la position dans laquelle il a jusqu'à aujourd'hui été le plus à l'aise, quoi. Donc je pense que voilà, on ose enfin aller vers l'évidence.
Ouais, d'autant plus que, mine de rien, quand on regarde le roster, on voit qu'il y a quelqu'un qui est très bien placé pour peut-être, si les cartes sont bien jouées, reprendre cette place de face, top face, hein, et c'est Kevin Owens, et c'est pas pour rien qu'il s'affronte, et derrière, donc, il y aura une interview backstage de Rollins, où il lancera un challenge à Owens pour un match plus tard le soir. Moi, il y a un truc qui m'a dérangé dans cette séquence, mais bon, c'est un détail, mais allez, cohérence, c'est qu'en fait, il y avait quand même les War King Raiders qui étaient au bord du ring, et eux, ils ont gagné leur match. Ouais. Donc, à la limite, quand Rollins se bâche tout le monde, ils en étaient tous des nuls, au moins que les King Raiders s'en aillent en faisant comprendre, genre, nous, ça ne nous concerne pas, ou qu'il y ait une interaction là-dessus, quoi.
Ou alors, ouais, qu'il leur fait, genre, les mecs, ils se montrent, ou je sais pas quoi, et il leur dit, parce qu'il est hypocrite, toi, il leur dit, ouais, vous avez peut-être gagné, mais c'était en pré-show. Moi, je suis pas.
Ah, c'est bon, ça. C'est très bon. Le mépris absolu.
Le mépris. Ça aurait collé parfaitement.
Ça compte pas, c'était en pré-show.
Et là, les mecs se barrent, quoi.
C'est clair. Donc ouais, non, c'était plutôt bien qu'il y ait un vrai, en plus, qui fasse à l'écran quelque chose de cette tollée que les pris au Survivor Series, hein, et que ça aide à effectivement tourner Rollins.
Ouais,
et
de voir, quoi.
Une fois avoir perdu depuis quelques semaines la faveur d'une bonne partie de la foule et du public, et ben là, il perd aussi en plus sa place de ring général ou de leader backstage, je crois.
Ouais.
Donc ça, c'était plutôt pas mal. L'autre chose qui était pas mal, c'était Bobby Lashley, qui n'est pas là pour parler, mais pour se battre, pour une fois, contre pas Rousseff, mais contre Tatis Yoni. Donc au moins, Lana non plus n'a rien à dire à ce moment-là. On a une petite séquence où on voit aussi Rousseff qui arrive dans la journée plutôt dans l'arène.
Très drôle.
Au niveau du contrôle de sécurité, et puis il y a un fan dans la file qui dit « Ah, Rousseff, est-ce que tu peux me faire un autographe ou une selfie ?» Je ne sais plus trop. La sécurité qui fait « Non. » Puis le mec qui fait « Rousseff, ah, c'est pour mes enfants. » Rousseff fait « C'est bon, les gars. C'est pour ses enfants. Je suis Rousseff sympa. » Donc, il le fait rentrer et là, « Ah, tu t'es fait avoir, Rousseff !» Car c'était quelqu'un qui était venu pour lui remettre un avis judiciaire, hein, une restriction encore qui l'empêche d'approcher Lana, donc quelqu'un de l'état de l'Illinois où se trouve Chicago. Donc voilà, Rousseff se fait avoir encore une décision de justice qui l'empêche d'approcher Lana, non pas de 90 miles ni 90 jours, mais seulement de 90 feet, ce qui est une blurring en fait, hein, grosso modo. Donc, Lashley contre Tatis O'Neill, un match qui tombera très court, puisque effectivement, Rousseff viendra agresser tout simplement Lashley, donc il gagne par disqualification. Ça commence à se bastonner au niveau du titantron entre les deux. Lana arrive, il y a des flics qui arrivent pour emmener Rousseff. Au final, Rousseff balance Lashley dans une espèce de plateforme un peu en contrebas. Le public pop. Rousseff devient un peu hystérique. Il se fait censurer et menotter par 12 flics et demi. Puis, il a le temps de mettre un gros front kick à une espèce de rampe en métal avec des spotlights. Et la rampe en métal tombe au sol en écrasant là où se trouve Bobby Lashley, qui est enterré sous toute cette structure et ce carnage, et Rousseff exulte en fait, hein, il rit, il est un peu psycho même, on peut dire. Il se fait emmener dans tous les cas par les flics backstage, et un peu plus tard on verra donc backstage Lana qui a l'air effectivement complètement catastrophée, Lashley qui se fait emmener sur une civière, et elle dira plus tard dans une interview backstage que voilà, c'est pour ça que la WWE doit virer Rousseff, le renvoyer en Bulgarie, expulsion carrément des États-Unis, hein, on en est là. Make America Great Again, Rousseff est un danger, mais tout va bien se passer parce qu'à la fois en elle et à la fois en son boyfriend, Lashley. Bon, c'est bien, on n'a pas eu de segment micro interminable, ça change, c'est cool, non?
Ouais, je vais être honnête, hein, j'ai kiffé. J'ai kiffé parce que C'était court, il y a vraiment eu de la baston, ils se mettent sur la tronche. C'était drôle, j'ai adoré la séquence avec le faux fan. Franchement, Rousseff se fait vraiment avoir comme un idiot, j'étais mort de rire. Et Rousseff, comme tu l'as dit, complètement hystérique, déchaîné, genre qui a pété un câble. Et mais ça, la foule était à fond derrière lui, c'est ça qu'on veut, quoi. C'est un mec qui perd les pédales, qui pète les plombs et qui est dans une espèce de quête de vengeance. Il en a plus rien à foutre, plus rien à perdre. Tu sais, c'est comme ce film là, comment ça s'appelle, où le mec il est coincé sur l'autoroute et puis en plein soleil, et puis il en a marre de sa vie, et puis il commence à péter un câble, et puis
c'est pas Chute libre,
Chute libre, voilà. Je dis pas que c'est...
non, parce que le mec il tue des gens en Chute libre,
Bah attends, on n'a pas encore tout, mais on sait pas tout. Enfin, Bobby Lashley, il a quand même. Il a quand même passé un sale quart d'heure. Mais ouais, toujours est-il que... bon, là, c'est plus divertissant, évidemment. Mais bref, la folie de Rousseff... enfin, voilà, on passe vraiment au côté divertissant de l'histoire, quoi. C'est vrai qu'on s'est farci, quand même. Et on a été gentil d'accepter... Enfin, on n'a rien accepté du tout.
On l'a subi.
On a quand même subi 2 mois de soap opéra, mais au niveau zéro, quoi, avec des trucs qui faisaient des main events de 15 minutes où il n'y avait rien, quoi. Ah, enfin, des mecs qui se mettent sur la tronche.
Ouais, moi, je vois un peu la patte de The Playman, le CW, un peu la fin de l'Attitude Era, où on va avoir des histoires un peu comme ça, qui sont très proches, finalement, de la vie des gens, parce que tout le monde peut se mettre à la place de Rousseff, genre ton conjoint, ta conjointe qui te trompe avec un immonde enfoiré, et du coup, à un moment donné, bah, t'as envie que bah, ce personnage-là, Rousseff, en l'occurrence, bah, se venge et réussisse sa vengeance, donc ils vont chercher un peu l'implication émotionnelle ou la faveur du public sur des thématiques très simples que les gens bah, ont déjà rencontrées dans leur vie ou qui peuvent tout à fait voir ce que ça peut donner, quoi. Donc, voilà.
Maintenant, il nous faut plusieurs semaines de comme ça, en fait, où Rousseff trouve le moyen à chaque fois de pourrir la vie de Bobby Lashley et de Lana avec plus ou moins de succès, pour enfin arriver à l'affrontement où ils vont se mettre sur la tronche dans une grosse tipu, no holds barred, quoi, avec peut-être la restriction. Si Rousseff perd, il doit quitter le pays.
Ouais, moi je vois bien le prochain pay-per-view. TLC, je vois bien un match TLC, Rousseff contre Lashley avec un truc suspendu au-dessus du ring, je sais pas, soit Lana, soit...
Un visa, tu sais quoi,
une green card
pour... Allez, oh ouais, c'est booké, voilà.
Voilà.
Voilà comment on book une road to pay-per-view.
C'est ça, Rousseff gagne, stipulation originale, inédite, Rousseff gagne le match s'il récupère la green card dans la mallette suspendue au-dessus de l'échelle, et Lashley gagne le match s'il met Rousseff dans un camion du service de déportation américain qui est au bord du ring. Bam!
Aïe, aïe, aïe. Oh, j'ai envie de voir ça maintenant.
Ici, dub!
Ouais. Oui. C'est parfait, cool, l'histoire est faite pour ça, donc allons-y. Voilà.
J'espère avoir raison, ça sera très drôle.
Oh, j'espère que tu auras raison aussi, tu vois.
Et pour ceux qui diront, mais c'est n'importe quoi, les mecs de catch-up, ils craquent complètement, les mecs là-bas, ils racontent que de la merde. Rappelez-vous quand même qu'il y a eu un moment donné un match avec des papiers d'adoption sur un pôle. C'était entre Eddie Guerrero et Rey Mysterio pour celui qui aurait la garde de justement Dominique, le grand-fils maintenant Rey Mysterio. Il y a eu ça, il y a eu des papiers de divorce au-dessus d'une échelle. Bref, il y a déjà eu des trucs comme ça dans la WWE. C'est pas forcément le meilleur. On n'est pas forcément pour que ça se reproduise, mais tant qu'elle est dans une sorte de merde, autant y aller à fond. Pourquoi pas? On verra bien. Ensuite, on va avoir une série de quelques matchs qui sont un peu rigolos parce que c'est des matchs. Un peu des matchs à jobber, mais les jobbers en question, c'est pas des locaux, c'est des gens qu'on connaît.
Ça commence à quoi.
Ouais, il y en a eu 3 qui sont succédés comme ça. Alors le premier, c'est les Authors of Pain, qui ont bien entendu ce que Rollins leur a dit, ont décidé, ok, on a fini de parler, on enlève nos chemises, on montre notre torse, et on va squasher Zack Ryder et Kurt Hawkins, hein, qui avaient, les deux, il y a 2 semaines, un title shot hein, contre les champions par équipe. Donc là, ils se font, mais d'entrée, et Camerazar mettre le last chapter, qui est un de leurs finishers sur Ryder et Hawkins, qui ne feront rien à part se faire brutaliser pendant 2 minutes. Donc, victoire des Authors of Pain, qui du coup, ça y est, enfin, catch, ne font pas que parler de la violence.
Ah, ils ont fait tomber la veste paramilitaire. Là.
Ouais, ils sont torse nus, les deux. Des gros bébés.
Des tétons musclés.
Ensuite, on va avoir la même configuration, mais ça va être un match simple où on va avoir Andrade qui va disposer assez rapidement d'Akira Tozawa. Et enfin, on va avoir Buddy Murphy qui va disposer et battre Matt Hardy qui revient.
Ouais, chelou.
Ouais, en mode, bizarre, hein, en mode team extreme, quoi. Mais vraiment, j'ai l'impression que ouais. Ok, il faut quelqu'un pour Buddy Murphy. Tiens, Matt, t'es encore sur la liste des employés. Tu fous plus rien. Vas-y, va te faire squasher en 3 minutes 50.
J'aurais dû leur faire sa rentrée, la Matt 2.0, avec les fun facts sur Matt Hardy. Là. Tu sais, il avait son entrée où il y avait des fun facts complètement débiles sur lui. Ils auraient pu faire ça pour le cas, ça aurait été marrant.
Eh ben là, non, c'est vraiment dans un différent général. Il avait hyper sobre. Il avait effectivement son tentron de Team Extreme. Bon, voilà. Ouais. Quoi, il a relancé un petit chant d'élite qui a duré 10 secondes. Mais Buddy Murphy lui place deux vitrigueurs bien costauds dans la mâchoire. Ça suffit pour le tomber. Bien sûr, Aleister Black qui s'était plaint juste avant que Buddy Murphy, ce salopio, avait knocké à sa porte pour pick a fight with him et qu'il n'est pas content, alors que ça fait des mois qu'il demande ça à Aleister Black. Il n'est pas cohérent avec lui-même.
Il n'est pas bien. Il faut qu'il parle avec Zelina, là.
Non, mais c'est, il est hollandais, Aleister Black. Donc, du coup, il a un peu trop tiré sur la Marie-Jeanne, comme on dit. À la fin du match, Buddy Murphy prend le micro, il se fout de la gueule d'Aleister Black. Bon, c'est pas très malin, puisque Aleister Black, il attendait dans son cercueil au bord du ring, et direct, il arrive, les deux se regardent au milieu du ring, Buddy Murphy prend l'initiative pour frapper Aleister Black, mais les coups de pied de karaté et autres Muay Thai de Aleister Black sont trop pour lui, il se prend effectivement quelques bons coups bien placés, Buddy Murphy pas en retraite, sous le titre en tronc. Donc on avance un petit peu là aussi sur la confrontation physique, et de voir bientôt peut-être un match d'Aleister Black compé. Donc voilà, ça c'était trois petits matchs faits pour mettre over, effectivement, eh bien, les Author of Pain, Andrade, et finir de préparer la feud entre Black et Murphy. Voilà, on a l'impression vraiment que ça y est, hein, le Survivor Series, c'est terminé. Maintenant, on se reconcentre vraiment sur le roster et on refait on remet des histoires, on donne des victoires à des types qu'on veut pusher. Moi, je trouve ça plutôt pas mal, hein, même si effectivement, ça laisse pas augurer du bon pour ceux qui qui sont faits squasher en 2 minutes, mais bon.
Ouais, non, pour eux, c'est mort. Va falloir attendre l'après WrestleMania, je pense, pour espérer avoir un programme positif pour eux. Mais c'est bizarre. Je suis d'accord avec toi. Au moins, là, c'est clair. Mais c'est presque trop mécanique, toi. On a eu, parce que tu comptes ces trois matchs-là, mais il y avait aussi celui avec Bobby Lashley juste avant, qui était un squash match de 1 minute. Donc, on s'est enchaîné 4 matchs qui dépassaient même pas 10 minutes en tout, quoi. Donc, c'était assez étrange. Mais comme tu l'as dit, le seul conclusion qu'il faut en tirer, c'est que ces mecs-là, a priori, vont avoir un programme à leur avantage dans les semaines et les mois qui viennent.
Donc, heureusement, parce que sinon, si tu fais jobber tag team et deux mecs de ton roster pour pas pusher et faire des solennes sur les mecs qui les squash, c'est vraiment oui. Diminuer la qualité de ton roster.
C'est pas comme si ça n'arrive jamais, mais oui.
Effectivement, j'avoue que l'histoire est peut-être plutôt du côté de cette théorie-là, mais ayons un peu d'espoir.
Il faut le voir pour le croire à la WWE.
Ouais.
Mais Aleister Black, par contre, c'est toujours un petit peu compliqué pour lui. C'est pas très logique comme tu le dis, mais bon. On s'en bat les. Au bout d'un moment, on s'en fout parce qu'il faut juste qu'il se mette sur la tranche avec deux.
Il faut qu'il le fasse gagner et qu'il enchaîne après des victoires. Et voilà, genre un peu le. Et Andrade, alors un truc différent, parce qu'Andrade, il a souvent Zina Vega et Trish, mais Aleister Black, voilà, faut le faire gagner avec son Black Mass, avec sa soumission, et enchaîner les victoires pour monter en termes de crédibilité, quoi. Puis,
je sais plus quand était son match contre Sami Zayn, tu sais, le match qu'il avait fait, non, qui était son premier vrai gros match, ça fait plusieurs mois déjà maintenant, toi.
Ah, bien sûr, ouais.
C'est incroyable, quand même.
Il y a eu une blessure entre-temps, etc.
Ah oui, il avait été blessé, ouais.
Et puis, je pense que du coup, voilà, ils avaient pris le parti, ok, on va rien faire de très important avant les Survivor Series.
Voilà, effectivement.
Un peu problème de calendrier.
Ouais.
On passe à du match un peu plus costaud, puisqu'on a un title pour United States Championship, donc AJ Styles qui va défendre contre Humberto Carrillo, hein, suite aux différentes victoires de Luchador. Sauf que du coup, le match n'en aura pas, puisque Carrillo, quand il débarque, tout sourire avec son costume de son
cosplay Power Rangers,
de Power Rangers, Chevalier du Zodiac, super-héros, il se fait simplement bâcher par le reste du Original Club. Hein. Dit aussi donc Luke Gallows et Carl Anderson, Mother Loving
Carl Anderson. Hein.
Donc du coup, voilà, Carrillo, il est quand même tout cassé au pied du ring. Lui aussi se forme bien la poire, Ricochet débarque. Ricochet qui dit, ok, AJ, c'est ça le champion que tu veux être, t'es vraiment qu'une pauvre merde maintenant, bah du coup si c'est comme ça, t'as qu'à faire un match avec moi. Et AJ il fait non, moi j'ai un match contre Humberto Carrillo, visiblement là il peut pas combattre, donc du coup moi j'ai ma nuit pour moi tranquille. Mm-hmm. Il y a Randy Orton qui débarque, qui fait ok, Carrillo il est cassé, mais je pense que le genre de Chicago il voudrait bien me voir te mettre un RKO au premier du ring. AJ, il fait tes millions Randy, mais je t'ai battu à WrestleMania, donc j'ai rien à prouver. D'ailleurs, toi aussi, Ricochet, hein, c'est d'ailleurs de toi que j'ai récupéré cette ceinture US. Arrive Drew McIntyre, qui fait, ouais, moi je connais un mec, il est grand, il est ténébreux, il est baraqué, il a jamais eu un match contre un...
Il a un accent sexy.
Voilà, c'est un accent super sexy, quand on arrive à le comprendre. Voilà, il fait, j'ai fait le sur Series contre le champion UK Walter, donc je mérite un title shot. Et Jay il fait, ah, tu sais, je me sens encore un peu, j'ai encore un peu mal du match d'hier contre Strong et Nakamura, je me sens pas dans mon assiette. Alors il y a Rey Mysterio qui débarque, c'est la fête, hein, limite tous ceux qui étaient partis, la séquence d'intro reviennent, on a l'impression. Rey Mysterio qui fait, eh bien, écoute, t'as un peu de shot, moi je me suis fait complètement squasher, péter la gueule par Brock Lesnar, donc je pense que je mérite un title shot aussi. Et puis, Ricochet, il fait, attends, j'ai une idée. Des quatre là, on a qu'à se faire un Fatal 4-Way. Et puis le gagnant, il fait un match contre AJ Styles. AJ regarde à droite et à gauche Gallows Anderson. Ils font, ouais, c'est pas une mauvaise idée. Et c'est parti. Alors qu'il pensait certainement que, ok, il allait dire, mais non, n'importe quoi, accepte pas. Il fait, non, c'est une bonne idée en fait. Hein, c'est
ils sont
cool,
trop bons tous les trois ensemble.
Ouais, le côté ressort comique. Où finalement il y a même un peu de dysfonctionnement entre
eux.
Ils sont un peu gauche en fait, c'est un peu absurde. Ils n'ont pas ce côté vraiment impitoyable et terrifiant, on va dire, mais c'est plutôt les sales gosses, quoi. Ils jouent ça en ce moment, hein. Là aussi. Et donc, ça, ni une ni deux, Fatal 4-Way Playa, on a donc Ricochet contre Rey Mysterio. Donc, un match qui dure beaucoup plus que ce qu'on a vu avant, mais qui n'est pas non plus d'une longueur extrême. Ce qui se passe sur la fin, du coup, on a McIntyre qui slame un peu tout le monde, notamment Ricochet, qui fait une grosse sit-down powerbomb pour un compte de deux sur Ricochet. Drew attend que Ricochet se lève pour faire son claymore kick, mais Orton court out of nowhere et lui fait un gros RKO en plein milieu. Donc, Orton fait tomber. Il y a un compte de deux puisque Gallows Anderson chope Orton et l'enlève du ring, hein, empêche qu'il gagne. Donc on voit que lui aussi ne veut pas que Orton gagne. Et donc il y a Rey Mysterio qui arrive dans le ring et fait un moonsault et un petit roll-up pour effectivement gagner le match. Donc vainqueur Rey Mysterio, et on voit AJ tout sourire qui applaudit, qui a l'air très 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 heureux que ce soit Mysterio qui gagne ce match. On va continuer puisqu'en fait ça s'enchaîne toujours très vite.
Ouais, c'est bien match, ça s'enchaîne.
Le match entre les deux, c'est maintenant, right now, quoi. On a la séquence promo, le Fatal 4-Way pour le First Contender et le match de titre. Donc Rey Mysterio contre AJ Styles. À mon nez, dans le match, on a eux aussi qui se font choper par l'arbitre en train d'essayer de tricher. Donc ils se font virer les abords du ring pour une fois. Donc après effectivement un match là non plus pas méga méga long puisqu'il faut vendre quand même le fait que Mysterio a eu un gros match juste avant. Donc on a AJ qui veut faire un superplex à Mysterio mais qui est bloqué, un gros Ishiguroshi pour plier le cou de Mysterio en deux sur les genoux de AJ Styles, des comptes, des near falls un peu dans tous les sens. Ray qui bloque le Style Clash, on a effectivement un 619 avec le public qui pop à fond, hein, qui est à fond derrière Rey Mysterio, mais AJ rencontre l'arbitre sur sa trajectoire, un bon rêve bump des familles, du coup c'est le moment pour Gallows Anderson de courir du backstage pendant que l'arbitre est sonné pour attaquer Rey Mysterio. Les fans forcément bout tout cela, et en fait Randy Orton débarque, tabasse Gallows Anderson, va pour mettre donc effectivement calmer AJ, mais AJ essaie de s'occuper de Randy Orton. Il est AJ Styles est distrait, ça permet à Mysterio de replacer un 619. Orton a le temps de placer son RKO, Ray enchaîne avec un frogplash, fait le tomber, l'arbitre qui ressort dans son coma à ce moment-là. 1, 2, 3, nouveau champion US, Ray Mysterio. Et AJ qui est complètement dévasté. Le Dominique, ce stupide fils, comme dirait Rollins, arrive pour célébrer la victoire de son père. Et un peu plus tard, en backstage, on va avoir quelqu'un qui interviewera Léo aussi. Et Jay, qui est complètement speechless, hein, qui ne sait pas quoi dire, qui va pour parler, mais qui s'arrête à chaque fois. Il regarde Gallows Anderson qui font une tête en oups. Et tout ce qu'il dira, c'est Orton. Saloperie d'Orton, quoi. Ouais, donc voilà, changement de titre. Certains avaient espéré que Ré-Ré ravisse la ceinture de Lesnar, parce qu'on voyait bien, dont moi, avoir un autre run de champion à WWE. Eh bien, on l'a exaucé. C'est pas le WWE Championship, mais c'est le US Title. Donc, gros segment, gros Fatal 4-Way, gros title match. On est plutôt bien, là.
Ouais, grosse médaille en chocolat pour Rey Mysterio.
Exactement, mais c'est Noël, c'est ce que les gens veulent. On veut...
Ouais, ouais, calendrier de l'avance, et vous pouvez commencer à l'ouvrir. Ouais, c'est vrai que ça sentait pas bon pour AJ Styles à ce moment-là, hein. Tout était aligné là, hein. Grosse prestation de Rey Mysterio la veille, face pour le titre suprême. Très souvent les mecs, justement ils ont un petit bonbon le lendemain pour les remercier d'avoir fait soit une grosse presta ou alors d'avoir perdu le titre pour quelqu'un d'autre. Voilà, et du coup on se rabat souvent sur les titres secondaires, donc on se concentre avec Rey Mysterio en title contender pour face à AJ Styles. C'est vrai que ça sentait pas bon, mais moi j'ai beaucoup aimé l'intro. Alors, une fois de plus, c'était un petit peu long, ça tirait un petit peu en longueur la revolving door séquence là où chacun leur tour ils arrivent, mais j'ai beaucoup aimé Drew McIntyre. Il est tellement à l'aise, le mec.
Enfin,
très drôle. Ouais.
Enfin voilà, on lui donne de la personnalité, l'occasion micro dans le ring, montrer un peu ça et pas juste jouer les à droit.
Souvent, quand il a le micro, il nous montre qu'il y a du potentiel, mais c'est vrai qu'on lui donne rarement. Il a tout pour lui. Et le face-à-face avec Randy Orton, là, quand ils se sont échangés les claques sur le torse, quand Randy Orton, il dégustait, il vendait ça, il était tout rouge. C'était énorme. C'était vraiment que tu vois, ces deux mecs qui font 2m10 chacun. Je sais pas, t'as en face de toi, t'as la quintessence du catch à WWE, mais qui fonctionne encore aujourd'hui, quoi. Drew McIntyre, il faut y aller maintenant, direction WrestleMania pour lui, et il ne faut pas se contenter du titre US avec ce mec.
D'ailleurs, Orton avait effectivement un de ses pecs qui était bien rougeau, bien sanglant, là, après les
chops. Ça a claqué, hein. Moi, je disais, les chops de Walter à côté, c'est rien du tout, hein, par rapport à ce que je viens de voir là, hein, parce que là, ça a claqué de grave, hein. Orton qui essaie d'avouer qu'il a mis la pichenette à la place, c'était très drôle, une petite pichenette. Donc voilà.
Dans les yeux.
Ouais, dans les yeux. Ouais, c'était une bonne séquence d'intro. On enchaîne avec le match. Ouais, d'habitude, faut se taper tout l'épisode pour avoir le match. Là, ça a été très rapide. Et on est bien là avec AJ Styles qui lâche la ceinture à Rey Mysterio. On a le feel good moment qu'on n'a pas eu la veille. Tout se rééquilibre, quoi.
Ouais, puis ça met aussi remet un peu en place après encore. C'est soit série. Tous les rosters, un peu quelle est la top middle card, hein, à Raw, avec tous ces gars-là qui se disputent pour avoir un shot au US title, puisqu'on sait que de toute façon, encore une fois, on est dans une situation avec Brock Lesnar où la ceinture suprême est bloquée, ben, du coup, celle qui va être défendue, échangée de main potentiellement plus souvent, c'est celle-ci, donc il faut des gens qui partent à sa poursuite. Hein.
Ouais, exactement. Exactement. Donc, qui ira chercher Brock Lesnar? Pour l'instant, il n'y a pas d'indice. Mais il y en a peut-être, mais il n'y a pas d'indice clair.
Non.
Par contre, effectivement, le autour de la ceinture US, il y a du beau monde. Hein. Franchement, il y a du beau
monde. Il y a du monde, tout à fait. Du côté de ces dames, donc la Women Division, donc aussi en série d'Euro, effectivement, elle a perdu, notamment parce qu'il y a une dissension dont on va avoir un match suite à ça. C'est Charlotte Flair qui était la capitaine contre Asuka, puisque Asuka a fait son Green Mist la veille contre Charlotte Flair, qui s'est fait du coup éliminer du match. Donc on a le match effectivement entre Asuka et Charlotte Flair, donc revanche de WrestleMania, de la fin de la streak, hein. D'ailleurs, dans une petite interview, c'est un peu ce que Charlotte nous vend, que Asuka en gros aura toujours les nerfs, que son règne d'invincibilité fut brisé comme ceci. Donc gros match avec beaucoup de back and forth, comme on dit, hein, et beaucoup de nerfs folles. Comme précédemment, Kairi Sane, donc la championne par équipe avec Asuka, se fait virer des abords de ring par l'arbitre, pour que les deux belligérantes soient seules pour faire un combat fair. Et donc, sur la fin, ben, on a Flair qui, justement, essaie de placer un gros Natural Selection sur Asuka, mais Asuka la met dans le armbar, hein, le crosshair breaker, puis change en position de submission triangle. Flair qui essaie de la lever, de la soulever pour en faire une power bomb, et le fait, et elle transfère tout ceci en Boston Crab, en plein milieu du ring. Flair donc qui met des gros coups de pied et de bottes sur la gueule d'Asuka. Flair qui travaille la jambe, mais Asuka réussit à s'en dépêtre. Flair qui arrive avec un gros spear pour un compte de deux. Karizen qui revient aux abords du ring. Il y a une distraction, ce qui donne la possibilité à Asuka de pouvoir faire son green mist en pleine face, et donc Asuka qui gagne avec un roll-up pour la victoire. Donc les Japonaises sont hilares, Flair est encore couverte de cette substance verte qui lui brûle les yeux. Pour la deuxième nuit consécutive, la reine se fait littéralement cracher à la gueule. Est-ce que avec ça, on va quelque part qui t'intéresse ou, parce que ce soir, on n'a pas eu du tout Becky Lynch, hein.
Non, étrange. On l'a tellement, on a tellement bouffé du Becky Lynch, ouais. Comme elle qui est. Enfin voilà, j'en parlais avec Chris lors de la review évidemment de Survivor Series. On a quand même réussi à trouver le moyen de mettre Becky Lynch victorieuse alors qu'elle venait de perdre son match à la fin de Survivor Series. Et là, elle no show. Donc j'ai pas très bien compris. Je me suis dit, mais enfin, elle a brillé par son absence, comme on dit.
Ouais.
Donc ouais, ça c'est un peu étrange. Pour ce que j'ai vu là, un programme Charlotte Flair versus Asuka, ouais, parce que les deux filles se connaissent super bien, il y a une grosse alchimie. Asuka, dis-moi l'amiral, mais est-ce que c'est pas la première fois qu'Asuka bat Charlotte en un contre un?
C'est pas impossible, j'ai pas souvenir de
il y a eu les triples frites avec Becky Lynch à la grande époque, et il y a eu peut-être eu des 2 contre 2, des stipus comme ça, mais en 1 contre 1
Après ceci dit, là encore une fois, moi ce qui me dérange un peu dans tout ça, c'est le fait que Asuka gagne mais par tricher encore une fois, et que quand elle est arrivée, elle était assez redoutable, et là pour gagner elle a besoin d'avoir la distraction de Karizen, elle a besoin d'utiliser le green mist. Donc bon, pourquoi pas comme, mais
ouais, non, je suis d'accord avec toi, enfin on n'est pas obligé à chaque fois d'avoir des heals qui trichent, c'est bien, c'est la base, mais avec des personnages comme Asuka et d'autres qui sont vraiment juste des méchants qui sont forts et pas juste des méchants qui trichent, quoi. Tu peux effectivement, et ce serait bien d'éviter ce genre de ficelle. Donc je suis d'accord avec toi, c'est un petit peu frustrant de se retrouver avec un finish pareil. Visuellement c'est assez impressionnant quand même, parce que Charlotte elle s'est transformée en Schtroumpfeuer là, tellement elle était recouverte de poison là. Mais je sais pas trop. Un coup, on a l'impression qu'Asuka est envoyée vers Becky Lynch. Un coup, on remet l'histoire avec Charlotte. Je sais pas ce qui me tente le plus, moi.
Je regarde en live, là, par rapport à ta question. En décembre 2018, à SmackDown, Asuka qui bat Charlotte par disqualification, parce que Charlotte a utilisé un kendo stick. Donc il y a ça, il y a eu une première victoire en 1 contre 1 d'Asuka, mais sur disqualification, donc c'est pas vraiment, c'est pas clean, hein, ça c'est clair.
Ouais, alors faudrait que je reformule ma question, sans disqualification.
Ouais.
Non, ouais, il n'y a pas la victoire. Après maintenant, est-ce que vraiment il y a besoin d'avoir ce genre de payoff, surtout qu'Asuka est passé heel maintenant, donc...
Je trouve aucune mention effectivement d'un victoire d'Asuka contre Flair, plus ou moins clean, quoi.
Ouais, donc c'est bon, c'est quand même un fait important, mais c'est pas forcément l'histoire qu'on veut nous raconter là.
Non.
De toute façon, les alignements ont changé. Donc...
D'ailleurs, c'est presque dommage, quoi. C'est que.
Bah ouais. Moi, c'est pour ça que j'étais là en mode.
Là-bas, c'est avec une distraction externe et Green Mist, quoi. Donc bon. Après, maintenant, les heals, la WWE, ils ont beaucoup de mal à faire des heals qui sont terrifiants et qui peuvent être très performants dans le ring, et on vont plutôt à la facilité de les faire tricher par tous les moyens possibles.
Ou alors ils vont être performants pendant tout le match, mais à la fin il y a quand même le petit roll-up, la petite tricherie et la petite intervention.
Exactement, ouais. Enfin bref, on verra après. Moi ce que j'aimerais, et je pense que tout fan de catch aimerait, c'est qu'il y ait un combat sérieux avec du temps entre les deux, avec, je sais pas, la possibilité pour Zayn de pouvoir intervenir et vraiment un gros match, quoi. Et qu'importe finalement que derrière, au final, Flair ou Asuka gagne, même s'il serait bien qu'Asuka gagne pour un peu remettre les compteurs à zéro, mais qu'on ait encore un gros, gros match de catch, de te voler entre les deux, quoi.
Ouais, envoyer Asuka dans les pattes de Becky Lynch, ça me paraît vraiment une. Enfin, ça me tente bien, toi, effectivement. Asuka versus Becky Lynch, c'est aussi un joli programme.
Ouais, tout à fait.
Faut qu'il se décide. Faut qu'il se décide.
Un qui se décide pas à révéler ce qu'il y a sous sa cage, enfin dans sa cage, c'est Eric qui va squasher un mec, Kyle Roberts, très rapidement. Le jobber local aura eu le malheur de regarder ringside sous la toile de juge qu'il y a dans la cage de Rohan. Il aura eu peur et suite à ça, se prendra effectivement Iron Claw Chokeslam. Donc voilà, défaite très rapide de ce Kyle Roberts. Qui était vraiment le match jobbing, squashing par excellence de la soirée. On ne sait toujours pas ce qu'il y a.
La tête de Harper. Ma théorie de la semaine, c'est la tête de Luke Harper.
Oh, ok. en mode lanterne, comme.
Ouais.
Final. D'accord.
Une lanterne achetée, une offerte, du coup.
Ah, c'est pour ça.
C'est Black Friday. Hein.
Oui, d'ailleurs, on aura une séquence de vente Black Friday.
Ah oui.
Gertrude, c'est, je crois, les Iconics, il me semble.
Ouais,
c'est
ouais.
Une bêtise. Voilà, bon, c'est rigolo, mais bon, sans plus. Hein. Ce qui n'est pas rigolo, par contre, c'est le main event. Gros match, donc, entre Seth Rollins et Kevin Owens pour un peu... l'enjeu, c'est de qui a besoin vraiment Monday Night Raw. Est-ce que celui qui croit être toujours le capitaine, le locker room leader, Seth Rollins, ou bien Kevin Owens qui a la cote, la pop et la cool attitude. Donc, gros match entre les deux. Ne pensez pas qu'on aura une fin clean, parce qu'on est bien loin de la fin de cette histoire, et heureusement. Sur la fin, donc, Owens, c'est un peu l'avantage, va effectivement passer sa pop-up power bomb, mais rate. Rollins va faire un pedigree. Donc, il ressort hein, cet arsenal-là qui est clairement identifié il dans les yeux du public. Donc, c'est Tissin qui confirme dans les movesets que ça change du côté Rollins.
Ouais.
Donc, voilà, ils se bloquent beaucoup leur finisher respectivement. Rollins fait sa combo, gros blockbuster avec Falcon Arrow pour un compte de deux. Donc, il va faire le stomp. Owens évite. Il va pour mettre le stunner. Rollins évite. Encore un pop-up power bomb pour le compte de deux. Stunner encore bloqué. Là, il s'envoie des gros coups de pied. Et puis donc, effectivement, Owens arrive à mettre son stunner out of nowhere sur Rollins. Mais avant qu'il fasse tomber, les deux gros bibendum, des gros bébés débarquent, les Authors of Pain, arrivent dans le ring. Là, tout le monde se regarde un peu, genre, quel est le fuck? Et Owens décide du coup de prendre l'ascendant et d'attaquer les Pain qui l'atomisent. Donc, victoire par disqualification de Kevin Owens. Donc, Ekaner Hazard continue à détruire Kevin Owens. Quand ils ont fini avec lui, ils se tournent vers cette Rollins. Cette Rollins qui regarde aussi un l'air un peu interdit. Il leur dit « Allez, venez, si vous voulez me battre, venez comme des hommes. » Et les deux le regardent et s'en vont sans l'attaquer. Rollins ne comprend pas trop. Il est énervé. Il regarde Owens. Boum, un stomp. Il le trash talk. Boum, un deuxième stomp. Histoire de bien se faire huer copieusement une dernière fois par le public de Chicago. Et c'est donc avec un Kevin Owens ratatiné dans tous les sens du terme et un Rollins vénère sous les huées de la foule que se finit ce Monday Night Raw. Alors, est-ce que on va avoir un Shield 3.0 avec Rollins et les Authors of Pain?
C'est la JJ Security. Ouais. Gonflé là, gonflé.
Il y a du level up, ouais.
ouais, beaucoup de mystères. Clairement, on nous raconte que s'il y a une alliance entre AOP et Seth Rollins, cette circonstance, et c'est pas vraisemblablement pas un calcul.
Ouais. Puisqu'il a l'air vraiment surpris, hein, Rollins. C'est...
Ouais. Ou alors, on nous joue la carte du mec qui fait exprès depuis le début et tout. Ah ouais, c'est un architecte, c'est son gimmick, hein, après tout, plan A, plan B, plan C. Quoi. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on retrouve cette Rollins-là au bout d'un moment, tout au long de cette rivalité qui se dessine avec Kevin Owens, qui, franchement, m'enchante vraiment beaucoup. Je pense qu'on a quand même là Kevin Owens versus Seth Rollins. Enfin, en termes de positionnement et d'alignement entre le public et les personnages, top babyface et top heel.
Dans le ring aussi.
Et dans le ring. Enfin, ouais. tout est aligné pour que chacun de leurs matchs puisse vraiment être explosif et recevoir des énormes réactions de la part de la foule.
Grave. Ah, faut y aller à fond, là. Là, faut banquer à fond. Et moi, clairement, je dis ça à moitié en rigolant, hein. Le site 3.0, mais si les scénaristes se disaient, OK, bon, ben, Rollins, on consomme le fait qu'il redevient heal et vrai heal full time, d'une manière ou d'une autre, faut qu'il s'allie avec le Doctor of Pain, que Rollins remette un look de ring gear un peu paramilitaire. Les Doctor of Pain l'ont déjà. Et quoi de mieux pour se faire encore plus huer par le public que de faire avec eux le fist bump du Shield, et de reprendre son rire, le rire qu'il avait voilà. Et là, voilà, c'est bon, il redevient le méga heal qu'il a été en juste 5 minutes.
Ah, quelle hauteur, cet amiral, quelle hauteur.
Mais ouais, c'est ce qu'il faut,
hauteur
c'est
de
ce
la douleur.
Exactement.
Non, ouais, évidemment qu'il faut teaser ça. C'est vrai qu'ils ont fait tomber le paramilitaire, mais ouais, faut qu'il, le temps d'une soirée, au moins, il faut qu'il fasse ça, quoi.
En plus, les deux, on ne sait pas trop, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas un anglais suffisamment fluide pour au micro être autonome complètement, pour être très bon au micro, en tout cas, c'est pas ça, je pense, Auteur of Pain, même s'ils ont bossé. Donc, du coup, il leur faut quelqu'un qui parle à leur place, quoi. Et Rollins, il sait faire ça, donc.
Ah ouais. Non, et puis parfait, hein. Seth Rollins, ça a toujours été un mec d'alliance. À chaque période heel, il a toujours été un mec d'alliance, quoi. C'est un architecte et il crée des liens pour s'assurer la victoire. Voilà, même si on aime toujours quand les heels arrivent à réussir par eux-mêmes, mais voilà, Seth Rollins, c'est un mec qui s'allie, qui va avoir effectivement une opportunité avec ces deux Golgoths, et effectivement, les OP, là, il faut leur donner un programme. Je pense qu'il n'y a pas besoin de les mettre dans la scène tag team maintenant. Au contraire, les mettre avec cette Rollins, c'est la garantie de les mettre, de rendre hyper visibles et de montrer que c'est des forces, enfin, voilà, c'est des gros costauds qui vont tout démonter, et Kevin Owens va avoir fort à faire pour aller chercher cette Rollins. Ça va permettre aussi de faire durer un peu l'histoire jusqu'à plusieurs pay-per-view, quoi. Franchement, il y a de quoi faire avec ces deux mecs-là. Hein. Franchement,
il y a un programme de plusieurs mois sans aucun problème.
Kevin Owens, c'est vraiment un vrai top babyface. Hein. Je sais qu'on aime dire que c'est un super heel, mais en fait, je pense qu'il faut. Enfin, Kevin Owens, c'est un mec qui arrive. Il est tellement fort au micro, avec le public. Maintenant, il a ce moveset avec le Stone Cold, enfin, le Stunner. Que Stone Cold lui-même lui a validé, il lui a demandé, il a dit ouais c'est bon utilise-le, c'était la WWE qui voulait pas qu'il l'utilise tout de suite, ça y est maintenant il a le feu vert de Vince, donc clairement tout est aligné pour Kevin Owens pour aller placer des stunners dans tous les sens, avoir la foule derrière lui, il a le micro pour lui,
c'est ce qu'il faut faire, faut laisser stunner à Tialarigo et
faut qu'il stun genre des, enfin Seth Rollins il va avoir des armées de jobbers pour lui qui vont. Il va venir avec sa sécurité, les mecs comme ça. Faut que le mec il aligne 10 stunners d'affilée comme Shawn Michaels aligner les super kicks random dans les vestiaires, quoi.
C'est ça, c'est facile, mais ça marche donc du coup, faut pas se priver, quoi.
Et franchement, ça va être l'interaction. Je trouve vraiment que cette histoire de rivalité est vraiment bien écrite entre Kevin Owens et Seth Rollins avec l'histoire de Mr. NXT, Mr. Raw. Je trouve que c'est plutôt bien foutu, toi. Et on a clairement là deux mecs qui sont au top. Éloigné de toute ceinture pour l'instant, en plus. Donc, une belle histoire, bien écrite. Donc, il faut y aller.
Puis, tu peux très bien dire que le vainqueur de cette storyline, à terme, sera en très bonne place pour aller chatouiller Brock Lesnar pour le titre suprême. Quoi.
Un ancien champion versus...
Universal Championship.
Voilà, les deux mecs qui ont été Universal Champion, ils ont été au top. Là, ils font le main event. Il y a un beau programme aussi pour eux en perspective.
Eh bien, très bien. Alors, pour ce Raw, ton top, ton flop, ta note, ton verdict.
Alors, j'ai pas énormément de flop. Franchement, honnêtement, c'était un très bon, très bon Raw du lendemain.
Ouais, c'était fun. Il y avait plein de bons trucs. Pas un qui était trop faiblard. On peut toujours ergoter sur les squash match, les machins, etc. Mais... au final, il n'y a pas de gros segments nuls, chiants, relous, n'importe quoi. C'était plutôt épuré. Il n'y avait rien en plus d'extraordinaire. Mais c'était pas. Il y a
plusieurs fois, je me suis marré. Plusieurs fois, j'ai eu quelques bonnes répliques. Il y a eu du bon catch entre les cordes. On a eu du match de title contender. Il y a eu du changement de titre. Il y a eu un top heel, un top face, un heel turn acté. Il y a eu des mecs qu'on voyait plus qui, visiblement, ont dorénavant un programme. Donc
moi, j'ai un flop, ceci dit, si vous m'en trouvez un, j'en ai un, c'est Matt Hardy. Vraiment, pour la carrière qu'a eu Matt Hardy, le champion qu'il a été en équipe, en solo, etc., et la faveur du public sur tous ses gimmicks, notamment ces derniers, là, le remettre dans un match comme ça, sorti de nulle part, pour perdre en 2 minutes, même si j'aime beaucoup Buddy Murphy mérite, a beaucoup plus besoin, et c'est beaucoup plus intéressant qu'il ait un push Buddy Murphy aujourd'hui que Matt Hardy, on est d'accord là-dessus. Mais c'est un peu genre, le pauvre Matt, quoi. On en met là pour lui, quoi.
Moi, mon flop, je vais le donner à Becky Lynch. L'absence de Becky Lynch qui est assez... Alors, je sais rien, elle est blessée, peut-être, j'en sais rien, peu importe. Bah, même de côté blessé, tu peux prendre un micro, quoi. Mais Becky Lynch qui fait le main event de Survivor Series et qui pose en victorieuse, absente. Bon. Pour moi, c'est mon flop. Mon top, je vais le donner à... C'est mon petit plaisir, à Drew McIntyre. Okay. Que ce soit pour sa promo ou alors ce petit échange avec Randy Orton. C'est vraiment mon petit plaisir parce qu'il y a eu plein de choses que j'ai beaucoup aimées. Alors, je vais lui donner un petit plaisir que j'ai eu. Et ma note, ben, je donne un 3,75. 3,75 à cet épisode. On est vraiment bien lancé, quoi. Donc, 3,75 pour cet épisode.
Très bien. Bah, écoute, moi, je relance d'un 4. Hein.
Ouh.
Voilà, vraiment, il y a pas de segment vraiment chiant-lit et pénible. Il y avait des bons trucs et voilà, mon top, ça va être un peu l'esprit général de cet épisode où vraiment c'était concentré sur le roster d'Euro et on sent qu'il lance des trucs pour plus tard et j'espère que tout ceci nous donne un peu des espoirs de booking sur du long terme, au moins de moyen terme. J'espère réellement qu'on va avoir ça. Que ça y est, là, on est parti après toutes ces espèces de drafts, la reconfiguration des shows, l'arrivée de NXT sur USA Network, Fox avec SmackDown Live, les Survivor Series qui étaient mélangés, etc. C'est maintenant, on est parti sur une nouvelle séquence et j'espère le début d'une road vers WrestleMania qui va être construite avec effectivement des plans, des scénars sur 2, 3 mois, 4 mois, soyons fous. Donc voilà, c'est un peu un vœu pieux, un espoir que je lance, mais je reste positif. Voilà.
L'espoir fait vivre et on n'a pas envie de crever tout de suite, donc autant espérer.
Non, ouais, tout à fait, tout à fait. Ben voilà, c'était ça pour ce rond. Les amis de Catch-Up, vous pouvez nous retrouver comme d'hab sur YouTube, sur iTunes, sur Deezer, Spotify, n'importe où, vous pouvez trouver des podcasts. On est là, Catch-Up, n'hésitez pas à vous abonner, laisser des likes, des pouces, des commentaires pour nous soutenir, ça nous fait plaisir. Irène, merci d'avoir été là pour, après ton retour de Chicago, nous donner tes visions et tes avis sur le show rouge.
Bah ouais, jet lagué, mais toujours présent.
Exactement, c'est ça qu'on a nous aussi. On a un planning comme la WWE infernal. Quoi. Et bientôt, on va avoir le show de SmackDown très vite. Donc voilà, vous abonnez-vous à nos différentes plateformes pour être au courant. D'ici là, on vous souhaite une bonne semaine. Surtout, plein de tâches. Salut, à bientôt.
Salut, salut.
I'm ready to record.